Chemin du passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Lay, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques.
Micro-histoire présentée aujourd'hui par Claude Janin et Maud Sénat. Le château de Saint-Marcel de Féline, de la force à l'élégance, par Claude et Maud. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des plus beaux châteaux de notre région, le château de Saint-Marcel de Féline. Lorsqu'on l'aperçoit au loin, avec ses tours, ses douves et ses hauts murs de pierre, on imagine immédiatement le Moyen-Âge. Et pourtant, ce château est bien plus qu'une forteresse. C'est un lieu qui raconte près de 1000 ans d'histoire, depuis les premiers chevaliers jusqu'aux événements culturels qui l'animent encore aujourd'hui.
Alors, excusez-moi de vous interrompre dans votre exposé, mais quand on voit justement le château aujourd'hui, perché au-dessus du paysage, on a presque l'impression qu'il a toujours été là.
Et ce n'est pas loin d'être vrai. Les premières mentions du site remontent à la fin du XIe siècle. À cette époque, Saint-Marcel n'est pas encore le château élégant que nous connaissons aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle une maison forte.
Mais alors, vous parlez d'une maison forte, mais est-ce qu'on peut déjà parler de château fort ?
Pas tout à fait. Il faut imaginer une résidence fortifiée. Au XIe siècle, le territoire est partagé entre de nombreuses seigneuries et chaque famille noble doit assurer sa propre sécurité. La maison forte protège ses occupants, mais elle sert aussi à surveiller les terres alentour. Depuis ses hauteurs, on contrôle les chemins et les passages. Au Moyen-Âge, voir venir est déjà une forme de défense. Mais la maison forte est également le centre de la vie du domaine, où le seigneur administre ses terres et rend la justice.
Oui, donc le château est autant un centre de pouvoir qu'un lieu de défense.
Exactement, et c'est cette double fonction qui explique son emplacement. Bien avant de devenir une demeure de prestige, Saint-Marcel de Féline est d'abord un poste d'observation et de protection au cœur du territoire.
D'accord, donc on sait à quoi servait le château. Mais qui étaient les familles qui y ont vécu ?
Comme souvent, l'histoire du château est aussi celle des familles qui l'ont possédé. Les premiers seigneurs connus sont les Saint-Marcel, qui donnent leur nom au village et occupent la maison forte dès la fin du XIe siècle. Au fil des siècles, la seigneurie passe ensuite à d'autres familles, notamment les Toligny. Peu à peu, le château se transforme. Les défenses sont renforcées, des tours et des fossés sont aménagés et il prend l'apparence d'une véritable forteresse. Aujourd'hui encore, ces 6 tours, ces douves et ces hauts murs témoignent de cet héritage médiéval.
Mais alors j'ai entendu dire qu'une famille liée aux anciens seigneurs de Chalmazel avait possédé le château. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, tout à fait. Le grand tournant de l'histoire du château intervient à la fin du XVIe siècle. En 1578, Saint-Marcel de Féline entre dans le patrimoine de la famille Talaru, qui compte alors parmi les plus importantes familles nobles du Forêt. Les Talaru possèdent notamment le château de Chalmazel et fréquentent les grands cercles de pouvoir de leur époque. Ils occupent alors d'importantes fonctions auprès du roi et possèdent plusieurs domaines dans la région.
Et je suppose que c'est donc eux qui vont transformer l'ancienne forteresse.
Exactement. Sous l'impulsion de Jean de Talaru, Saint-Marcel de Féline connaît une véritable métamorphose. La Renaissance est passée par là. Les nobles ne veulent plus seulement se protéger derrière des murailles, ils souhaitent aussi afficher leur culture et leur goût pour les arts. Comme la célèbre bâtie d'Urfé, transformée quelques décennies plus tôt par Claude d'Urfé, Saint-Marcel s'inscrit dans ce mouvement qui diffuse les influences italiennes en forêt. Le château conserve ses murs et ses tours, mais derrière cette apparence de forteresse apparaît un univers plus élégant. La cour intérieure s'inspire de l'architecture Renaissance, les espaces deviennent plus lumineux et l'esthétique prend une place nouvelle.
Oui, on connaît la même évolution au château de l'Aubépin. Et là aussi, c'est un peu comme si deux époques cohabitaient dans le même bâtiment.
Oui, et c'est ce qui rend le lieu si attachant. En quelques pas, on passe du Moyen-Âge à la Renaissance. À l'intérieur, les boiseries peintes du XVIIe témoignent d'un art de vivre bien éloigné des préoccupations militaires des premiers occupants. Et le château ne se limite pas à ses bâtiments. Il s'ouvre sur un vaste domaine où jardins, canals, chapelles, pavillons et allées de verdure invitent à la promenade.
Et du coup, on s'éloigne de l'image classique du château fort.
Très loin, on est très loin même. Ces jardins racontent une autre époque. Une époque où les seigneurs s'intéressent aux arts, à la nature et aux idées nouvelles venues d'Italie. Le château n'est plus seulement un lieu de défense. Il devient un lieu où l'on reçoit, où l'on se promène, où l'on admire le paysage. Les jardins, les allées et les espaces de verdure participent pleinement à cette nouvelle manière d'habiter le château.
Mais ce que vous nous dites fait penser aux forêts idéalisées dont parle Honoré d'Urfé dans l'Astrée, je me trompe ?
Non, oui, c'est bien ça. Quelques décennies plus tard, Honoré d'Urfé fera connaître le Forêt dans toute l'Europe avec l'Astrée. Et même si le roman ne s'y déroule pas, les jardins de Saint-Marcel évoquent encore cet univers où se mêlent nature, élégance et art de vivre.
Et surtout, il a traversé les siècles.
Oui, et c'est sans doute ce qui frappe le plus lorsqu'on le visite aujourd'hui. Malgré les changements de propriétaires, les évolutions de la société et les grands bouleversements de l'histoire de France, le château est toujours là. Mieux encore, il a conservé une grande partie de son caractère. Ses bâtiments, ses décors et son atmosphère permettent encore aujourd'hui de parcourir plusieurs siècles d'histoire en quelques pas.
Et aujourd'hui encore, le château n'est pas figé dans le passé. Je crois qu'on peut le visiter et qu'il accueille régulièrement des animations.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui encore, le château est habité et ouvert au public. Visites, expositions, spectacles ou encore événements autour des jardins et du patrimoine continuent de faire vivre les lieux. Près de 1000 ans après la construction de la première maison forte, le château reste un lieu de rencontre et de découverte. Lorsque l'on regarde aujourd'hui Saint-Marcel-de-Féline, on voit encore les tours et les douves du Moyen-Âge. Mais derrière la forteresse apparaît aussi l'esprit de la Renaissance avec ses jardins, son élégance et son goût pour la beauté. Un château qui ne se contente pas de raconter son histoire, mais qui continue à l'écrire.
Micro-histoire, un montage de Mila Kitaïeva, présenté par Claude Janin et Maud Sénat.